Merci aux personnes qui nous ont conduits dans la première partie de ce culte. J'ai manqué de dire à Sigère que les enfants n'étaient pas avec nous. Ils étaient déjà à l'arrière de l'église avec Ghislaine et Adrien, et peut-être aussi avec les Lefort, je ne sais pas. Non, plus ou moins. Voilà. En tout cas, avec Ghislaine et Adrien pour répéter un chant ou des chants. L'occasion de saluer et de remercier tout ce travail que font Ghislaine, Adrien, avec les enfants régulièrement pour leur apprendre des nouveaux chants. Merci encore à eux. Il y a 3 semaines, j'introduisais la série de prédications sur la spiritualité chrétienne. Grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et cela commence par, comme on l'a vu il y a le 14 septembre, des relations qui sont fondées sur l'amour. Le diapo va s'afficher, je pense. J'aimerais faire quelques petits rappels, rapidement. Et comme ça vient d'être souligné dans la première partie de ce culte et notre Dieu créateur, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres relationnels, doués de facultés relationnelles, et ce parce que nous avons été créés en image de Dieu, et que Dieu lui-même est un être relationnel. Il incarne parfaitement en son sein l'unité et la diversité. L'unité parce qu'il y a un seul Dieu, et la diversité parce que 3 personnes, le Père, le Fils, l'Esprit. Dieu est trinitaire et chacune de ces personnes entretient des relations les unes avec les autres. Et de ce fait, eh bien, nous qui avons été créés en image de Dieu, bâtir des relations est inhérent à notre statut de créature de Dieu. Et la première personne avec qui nous sommes invités à fonder, à bâtir une relation, à développer une relation, c'est bien sûr avec notre Créateur, l'Éternel, Dieu. Et puis viennent aussi les relations avec nos semblables, notre prochain. Mais en même temps, force est de constater que bâtir des relations est un défi dans un monde qui est marqué par le péché. Les relations initialement bonnes et voulues par Dieu au commencement, dont il a été question aussi tout à l'heure, lors de la création, eh bien, elles ont considérablement souffert avec l'entrée du péché dans le monde, autant dans notre relation avec Dieu que dans nos relations les uns avec les autres. Nous avions lu la dernière fois ce texte de Matthieu 22, les versets 37 à 40. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Aujourd'hui, j'aimerais revenir plus particulièrement sur la première de ces 2 relations, la relation que nous sommes invités à vivre avec notre Créateur, cette relation d'amour avec Dieu. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Comment cette relation est-elle possible, malgré notre péché? Nous allons lire un récit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 50. Et la traduction qui s'affiche est la traduction de la Colombe, Luc 7, 36 à 50. Un des pharisiens invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est la femme qui le touche. Et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel l'aima le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as pas donné de baiser, mais depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Et c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Un récit qui n'est relaté que dans ce passage, en Luc 7, et non dans les autres évangiles, même s'il présente un certain nombre de points communs avec un autre récit qu'on appelle traditionnellement l'onction de Béthanie, et que nous avons dans Matthieu 26, dans Marc 14, dans Jean chapitre 12. Il y a beaucoup de similitudes entre ces récits. Dans tous les cas, il y a une femme qui se rend auprès de Jésus. Il est question aussi d'un parfum très cher dans un vase d'albâtre qui est répandu sur Jésus. Mais il y a surtout des différences. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même moment, ce n'est pas le même lieu. Alors, à part Jésus, les personnes ne sont pas les mêmes. Et puis surtout, les leçons à retenir ne sont pas les mêmes non plus. Et je pense que nous sommes donc devant deux récits différents. Et ce matin, nous nous intéressons à ce récit unique que nous avons dans Luc, chapitre 7, les versets 36 à 50. Ce texte met en contraste deux personnes qui sont très différentes. Luc commence en présentant un pharisien, verset 36. Un des pharisiens invita Jésus à manger avec lui. On apprend au verset 40 que ce pharisien s'appelle Simon. Les pharisiens constituaient un parti assez important, assez influent à cette époque-là. Les pharisiens avaient un souci tout particulier pour le respect, pour eux-mêmes et aussi de la part du peuple, le respect de la loi que Dieu avait donnée à son peuple, à Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Il a été déjà question à bien des reprises des pharisiens dans cet évangile de Luc. Au chapitre 5, verset 21, les pharisiens avec les spécialistes de la loi qui sont outrés de la manière dont Jésus affirme qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, un peu comme dans le passage ici. Ils sont indignés aussi parce que Jésus et ses disciples mangent avec des collecteurs d'impôts, avec des pécheurs, au chapitre 5, verset 30. Au début du chapitre 6, toujours les pharisiens qui demandent à Jésus « Mais comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas et qu'ils cueillent des épis le bord des chemins alors que c'est le jour du sabbat ?» Impensable pour les pharisiens. Et finalement, au chapitre 6, verset 11, les pharisiens qui commencent à réfléchir à ce qu'ils pourraient entreprendre pour mettre fin à l'influence de Jésus et à Jésus lui-même. Et tout au long de cet évangile de Luc, les choses vont petit à petit prendre de l'ampleur et cela mènera, on le sait, à l'arrestation, la crucifixion de Jésus. Simon était un pharisien, comme ceux dont il est question avant dans ce livre de Luc. Pourtant, Simon ne donne pas l'impression de vouloir piéger Jésus, comme d'autres l'ont fait, avec des questions un peu controversées. Au contraire, Simon semble plutôt curieux. Il s'intéresse à Jésus, probablement qu'il veut en savoir plus sur lui, de son enseignement, et il l'invite à venir partager un repas chez lui. Donc une première personne, Simon, un pharisien. Et c'est là qu'une femme, présentée comme une femme pécheresse, entre dans la maison de Simon. Alors ça peut paraître curieux qu'une personne entre comme ça chez quelqu'un, mais petite remise en contexte, à l'époque, les repas ne se faisaient pas comme nous faisons aujourd'hui à huis clos, où on est chez soi, on a verrouillé la porte et puis on est entre nous. À l'époque, n'importe qui pouvait entrer dans une maison, même lorsqu'on festoyait. La générosité, l'hospitalité étaient de mise. En tout cas, si on voulait garder une bonne réputation dans le village, dans la ville. Et donc, une femme entre. Et tout de suite, le décor est planté. Voici qu'une femme pécheresse entre. Une femme pécheresse. La Bible du Semeur traduit de cette manière « Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. » Sa vie dissolue. Probablement une prostituée. En tout cas, une femme dont les mœurs sur le plan de la sexualité n'étaient pas très en phase avec la volonté de Dieu prescrite dans la loi de Moïse. Loi de Moïse qui était si chère aux pharisiens. Elle vient se tenir derrière Jésus, à ses pieds, dit le verset 38. Là encore, en ce temps-là, petite remise en contexte, on ne s'asseyait pas autour d'une table comme on le fera aujourd'hui avec des chaises et à discuter les uns avec les autres. Les choses étaient un petit peu différentes, un peu comme on peut le voir sur cette illustration ici. Les convives étaient en cercle avec au milieu une table, souvent une table basse, et les convives étaient plus ou moins couchés en fait sur des divans ou sur des nattes, la tête vers les plats bien sûr, et puis les pieds du coup en dehors du cercle. Donc vous imaginez la scène avec cette femme là qui s'approche derrière Jésus à hauteur de ses pieds, et puis bien sûr les convives qui voient tout ce qui se passe. Donc le décor est planté. Deux personnes très différentes, un homme pharisien nommé Simon et une femme pécheresse. Deux personnes qui sont très différentes et qui vont avoir deux attitudes à l'opposé l'une de l'autre. Et Jésus va révéler et expliquer l'attitude de chacune de ces personnes que nous venons de voir. Nous commençons avec l'attitude de Simon. Je relis les versets 38 et 39. La femme pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait que la femme qui le touche, la femme qui le touche est ce qu'elle est, une pécheresse. » Pour Simon, c'était impensable qu'un homme de Dieu tel que Jésus s'associe à des pécheurs et encore moins à des femmes dont la vie était dissolue. Au point même que ça puisse faire douter Simon que cet homme qu'il a invité chez lui est bien un prophète comme ce qu'il croit qu'il est. Mais Jésus va lui montrer qu'il est bel et bien prophète, non seulement parce qu'il sait très bien qui est cette femme qui le touche, mais aussi parce qu'il sait au plus profond quelles sont les motivations, quelles sont les pensées de Simon dans son cœur. Voici ce que dit Jésus au verset 41 et 42. « Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel l'aima le plus ?» Jésus donne ici une illustration tiré de la vie de tous les jours, bien qu'il faut reconnaître que ce n'est pas tous les jours qu'un créancier fait une si belle remise de dette. Mais pour se faire une idée, 500 deniers ou 500 pièces d'argent, selon les traductions, c'est l'équivalent de à peu près 2 années de salaire pour un ouvrier agricole à l'époque. Donc c'est quand même pas rien, 500 deniers. Jésus révèle ici ce qui se passe réellement au plus profond du cœur de Simon. Dans le cœur de Simon, il y a une sorte de mélange entre intérêt pour Jésus et méfiance envers Jésus. Il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Comme si Jésus était en train d'appuyer là, à l'endroit où ça fait mal et de faire avouer à Simon que, bah oui, j'ai manqué au devoir élémentaire de l'hospitalité. Mais après tout, c'était déjà un très grand honneur de l'inviter chez moi, moi qui suis un pharisien. Pourtant, laver les pieds de ses invités, c'était normal à l'époque. C'était un geste quotidien. On voyageait en sandales sur des sentiers poussiéreux. Imaginez-nous en sandales dans la garrigue. Quand on revient chez soi, on serait content de pouvoir se laver les pieds. Jésus continue au verset 45. « Tu n'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. » C'est comme si Jésus faisait là encore avouer à Simon « C'est vrai, je ne voulais pas donner l'impression qu'il est mon ami. Je voulais garder une certaine distance. » Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus continue avec le verset 46. « Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête ?» Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Jésus avait bien compris tout cela. Lui qui sait ce qu'il y a au plus profond du cœur de chacun, lui qui connaît nos motivations, il montre à Simon que cette femme a agi à l'égard de Jésus comme l'hôte de la maison aurait dû le faire à son égard et a manqué de le faire. Et elle a même beaucoup plus fait que les règles ordinaires de l'hospitalité. Et ça permet de faire la transition vers justement l'attitude de cette femme. Pourquoi est-elle venue voir Jésus ? Le verset 37 nous dit qu'elle sut qu'il était là à table, dans la maison du pharisien. Probablement que cette femme avait entendu parler de Jésus, peut-être même qu'elle l'avait déjà aperçu et entendu dans l'une de ses prédications, de ses enseignements. Et voilà qu'elle a la possibilité d'aller à sa rencontre. Son attitude a de quoi choquer les gens autour d'elle. Elle entre dans une maison dont elle sait pertinemment qu'elle n'est pas la bienvenue. Une femme à la vie dissolue chez un pharisien, ça va pas bien. Les cheveux défaits, à l'époque, c'était le signe d'une vie libertine. Là encore, c'est pas très apprécié des pharisiens. Elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. Ce parfum, c'est pas un petit échantillon qu'elle est allée se procurer à Sephora. C'est un parfum d'une très grande valeur. L'albâtre, c'était une pierre dans laquelle on taillait des vases pour y mettre un parfum d'une grande qualité pour qu'il soit bien préservé dans toute sa qualité. Et tout comme Jésus a révélé l'attitude intérieure de Simon, il révèle aussi le sens de l'attitude, du geste de cette femme à son égard. Il a souligné tout ce que cette femme a fait pour lui et que Simon a manqué de faire. Et voici ce que Jésus dit à Simon au verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Jésus considère l'acte de cette femme comme l'expression d'amour d'une personne dont les dettes ont été remises, en référence justement à l'illustration que Jésus a donnée tout à l'heure, dans les versets 41-43. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel l'aima le plus ? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Dans cette illustration-là, la première personne dont parle Jésus, c'est celle qui se jetterait au bras de son créancier avec des larmes de reconnaissance pour cette dette qui lui a été gracieusement remise. Elle représente cette personne, cette femme pécheresse qui avait une dette énorme. Non pas qui reconnaissait sa dette énorme à l'égard de son créancier, de celui dont elle était la débitrice. La seconde personne dans cette illustration que Jésus donne, ce serait celle qui dirait, par égard pour son banquier, « Ça fait quand même quelques années que je suis chez lui. Ce geste qu'il me fait quelque part, c'est un peu normal. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à moins. » Cette seconde personne dans l'illustration, elle représente Simon. La remise de dette que Jésus utilise dans l'illustration, elle représente le pardon des péchés. La femme a accepté par la foi le pardon de ses péchés. Et ce pardon lui a inspiré pour Jésus un amour, comme on l'a chanté tout à l'heure. Un amour qui l'amène à braver tous les obstacles, même sous le regard de ceux et celles qui la jugeaient à cause de ses fautes, à cause de sa vie dissolue, qui la condamnaient. Son geste est parfaitement réfléchi, il est prémédité, il est voulu. Elle n'a pas peur de les faire, elle y va. Elle sait que Jésus, lui, ne la jugera pas. Elle vient alors à Jésus pour lui témoigner sa reconnaissance pour ce pardon qu'elle a accepté par la foi et qui a changé sa vie. Elle a, comme dit Jésus, elle a beaucoup aimé. Dit autrement, cette femme démontre par ses actes qu'elle a placé sa foi en Jésus. Et elle honore cela en lui rappelant que ses péchés sont pardonnés. Et il le lui dit au verset 48, il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et au verset 50, il lui dit, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Cette femme a pris conscience de l'immensité de sa dette, de son péché, de son offense envers Dieu. Et elle a pu recevoir le pardon de Dieu en retour de sa foi en Jésus. Une foi qui s'est traduite par des actes de repentance, qui disent qu'elle change de vie, qui disent qu'elle veut suivre Jésus. De son côté, probablement que Simon ne se considère pas comme quelqu'un qui ne pêche pas, je pense plutôt qu'il se considère comme un petit pécheur, quelqu'un qui a peu de choses à se faire pardonner, comme le sous-entend le verset 47. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, non pas parce qu'il serait un moins grand pécheur, mais parce qu'il ne reconnaîtrait pas l'immensité de sa dette. Il reconnaîtrait un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là. Alors à lui, on lui pardonne peu, mais du coup, il aime peu aussi en retour. Même la prostitution, une vie libertine, ou que sais-je d'autre, peut être l'objet du pardon de Dieu. Ces péchés qui étaient pourtant en abomination à l'époque et en particulier pour les pharisiens. Mais Simon, ce pharisien, doit prendre conscience que même la plus petite injure a besoin de faire l'objet du pardon de Dieu. Lui aussi a besoin du pardon de Dieu, lui qui n'a pourtant pas commis les mêmes fautes que cette femme. Simon n'avait peut-être pas compris que s'il n'existe pas de péché trop grand que Dieu ne puisse pas pardonner, il n'en existe pas d'assez petit qui n'ait pas besoin de pardon. L'amour de cette femme pour Jésus se fonde sur le pardon que Dieu lui a offert dans sa grâce et dont elle peut être au bénéfice par la foi qu'elle place en Jésus. Si j'essaye de le dire de manière plus synthétique, L'amour est le fruit du pardon. L'amour que l'on a pour Dieu est le fruit du pardon que Dieu nous accorde dans sa grâce et dont on est au bénéfice quand on place sa foi en lui. Un amour qui est prêt à tout en reconnaissance pour l'amour de Dieu manifesté dans sa grâce, dans son pardon. Seules les personnes qui prennent conscience de l'immensité de leur dette, de leur péché à l'égard de Dieu, peuvent apprécier le pardon de Dieu à sa juste mesure. Plus nous nous savons pardonner par Dieu, plus nous sommes poussés à aimer Dieu en retour. L'amour est le fruit du pardon. Simon, lui, est curieux. Il ne méprise pas Jésus, contrairement à d'autres du parti des pharisiens qui se seraient gardés d'inviter Jésus chez eux. Mais pour autant, il ne manifeste pas encore d'amour pour Jésus. Il aime peu, comme dit le verset 47. Il ne comprend pas qu'il a autant besoin du pardon de Jésus que cette femme pécheresse. Sa dette à lui est tout aussi grande, quand bien même il n'a pas commis les mêmes péchés qu'elle. Cette femme nous est présentée comme une femme pécheresse, mais on pourrait finalement parler de Simon comme un pharisien, un pécheur. Cette femme dont on ne sait pas grand-chose, même pas son prénom, alors que le pharisien, lui, on sait qu'il s'appelle Simon, mais elle, on ne sait pas grand-chose, parce que l'accent, il est mis uniquement sur vie dissolue, pécheresse. Eh bien, elle aime profondément Jésus parce qu'elle se sait pardonnée par Dieu, par Jésus. Jésus termine en disant « Ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et la raison pour laquelle cette femme est sauvée, ce n'est pas à cause des œuvres qu'elle aurait pu accomplir. Ce n'est pas non plus parce qu'elle a montré un grand amour pour Jésus en lui versant ce parfum d'une grande valeur. Non. Ce qui l'a sauvée, c'est sa foi en Jésus. Et une foi qui se traduit dans des actes derrière. Des larmes de reconnaissance. Un amour que rien ne saurait ébranler. Une relation nouvelle avec Jésus, son Sauveur et son Seigneur. Certainement, cette femme, à partir de ce jour, ou ce moment de sa vie, a aimé le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et nous aujourd'hui, est-ce que nous avons pris conscience de l'immensité de notre dette envers Dieu? Quand bien même peut-être nous aurions pu avoir été un enfant sage dans notre enfance, qui a même eu des bonnes notes à l'école avec les félicitations du jury. Peut-être même qu'on n'a jamais fait les 400 coups. Jésus a dit un peu plus tôt dans l'évangile de Luc, toujours ce même évangile, au chapitre 5, versets 31 et 32, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » À la repentance, c'est-à-dire au changement de vie. Est-ce que nous sommes bien au clair que nous ne pourrons jamais nous-mêmes guérir de cette maladie, pour reprendre l'image ici qui est utilisée, qu'est le péché, cette maladie, qu'est le péché? Nous avons besoin d'un médecin, et ce médecin, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Savons-nous apprécier la profondeur de la grâce de Dieu envers nous? Est-ce qu'il nous arrive de pleurer de reconnaissance, même peut-être littéralement, de nous émerveiller de la grâce que Dieu nous fait, qui dépasse tout entendement? Est-ce que nous avons pris conscience que Dieu peut nous pardonner tous nos péchés, même les plus grands, tous nos péchés? Avons-nous accepté son pardon dans notre vie? Et cette question, elle a tout son sens, parce que parfois, il peut nous arriver de culpabiliser tellement d'avoir fait telle ou telle chose que nous n'arrivons pas nous-mêmes à accepter, à nous approprier le pardon de Dieu. Et nous nous mettons alors à penser que c'est à nous d'essayer de mériter un petit peu, de faire des efforts pour être mieux. Et alors je pourrais accepter, recevoir son pardon, mais il n'en est rien. Ça ne marche pas comme ça. Avons-nous de la reconnaissance et de l'amour pour Jésus en retour de son pardon qu'il nous a manifesté à la croix de Golgotha ? Quelle est notre attitude ? Sommes-nous plus proches de ce Simon dont ce récit nous parle, en montrant un certain intérêt pour Jésus, en venant au rassemblement des fidèles, à l'église de temps à autre, ou même très régulièrement, en étant fidèle dans notre lecture de la Bible, dans la prière, quotidiennement même, en cherchant à s'approcher de Jésus, même peut-être pour certains par curiosité intellectuelle, pour essayer de un petit peu connaître de qui on parle là. Est-ce que nous nous retrouvons dans la manière de Simon de dire « Mais après tout, moi je ne suis pas si mal que ça quand même. Je ne suis pas, je n'ai jamais mis les pieds dans tel ou tel péché, et encore moins dans ce que cette femme a fait. Je n'ai jamais fait de grand péché comme cette femme. Je suis bien plus juste que tous ces gens à la vie dissolue quand même. » Parfois, vous savez, il nous arrive de minimiser nos imperfections. Quelqu'un a dit « Nous n'avouons nos petits péchés que pour nous persuader que nous n'en avons pas de grands. » Nous n'avouons nos petits péchés que pour nous persuader que nous n'en avons pas de grands. Et c'est une tendance très humaine qui consiste à présenter nos imperfections comme mineures, dans le but de convaincre les autres, et aussi accessoirement soi-même, que, in fine, nous ne sommes pas si mal que ça, nous n'avons pas de si grands défauts que cela. Est-ce que nous sommes plus proches de ce Simon dans son attitude, ou bien de cette femme qui pleure de reconnaissance, qui est prête à braver tous les obstacles pour s'approcher de Jésus, pour lui dire sa volonté de le suivre, de l'aimer en parole et en acte, de manifester cet amour envers Jésus, consciente et conscient nous-mêmes de la remise de dette immense qui nous a été faite par grâce. Si nous voulons bâtir une relation authentique avec Dieu, une relation réciproque d'amour, tout comme ce premier commandement nous y invite, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, eh bien cela commence par cette prise de conscience de notre immense dette à l'égard de Dieu et de venir à lui, de venir au pied de la croix dans la reconnaissance, avec la foi dans Jésus le Fils de Dieu, qui nous a fait grâce en venant vers nous pour mourir sur la croix et prendre notre condamnation, prendre nos péchés à notre place et nous libérer, nous délivrer de cette condamnation. Que toute la gloire lui revienne. Je vous invite à un temps de silence pour laisser résonner l'une ou l'autre chose et ensuite nous chanterons un chant.